Radio Kapi. Oh, Kapi.
Une attaque des ADF a fait plus de 40 morts et des dizaines de maisons et boutiques incendiées au centre commercial de Komanda à Nitori. Des milliers de gens affluent sur place pour identifier les victimes et constater les dégâts. Au moins 20 corps gisent au sol dans les bâtiments qui abritent l'église catholique de Komanda. La ville de Kinshasa doit refléter l'ordre, la propreté et le sens de la responsabilité. Propos tenus par le chef de l'État lors du Conseil des ministres de vendredi 25 juillet dernier. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, il faut donc prendre des mesures drastiques qui s'imposent. L'invité de ce journal est Régine Mbombo, coordonnatrice de la Ligue des filles et jeunes femmes instruites pour le développement LIFID. Dans le cadre du projet La Porte, cette structure donne la formation aux femmes et jeunes filles dans des divers métiers dits masculins, notamment la plomberie, la cordonnerie, l'électricité et la maçonnerie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à notre grande édition du journal de midi. Une attaque des ADF a fait 43 morts et des dizaines de maisons et boutiques incendiées au centre commercial de Komanda à 75 km au sud-ouest de Bunia en Ituri. Ces rebelles ont opéré avec des armes blanches pour ne pas alerter les forces de sécurité qui sécurisent cette agglomération où toutes les activités sont suspendues. Vanessa Kongolo en Kongolo.
La population de Komanda s'est réveillée sous les chocs après les drames survenus la nuit dans ce centre commercial. Des milliers de gens affluent sur place pour identifier les victimes et constater les dégâts. Au moins 20 corps gisent au sol dans les bâtiments qui abritent l'église catholique à Komanda. Des victimes ont été surprises par ces rebelles pendant la veillée des prières. Juste à côté, un autre corps calciné dans un camion incendié par ces rebelles. D'autres corps se trouvent dans des maisons des commerces et habitations incendiées non loin de l'église. Selon des sources de sécurité sur place, le bilan provisoire est de 43 morts et des dégâts matériels importants. Ces rebelles seraient venus de l'herbation des Mooyo et sont passés par la route Boji pour commettre ces crimes. Ce matin, c'est la désolation totale à Komanda où toutes les activités sont suspendues. Certains habitants quittent les milieux pour se mettre à l'abri de ces groupes armés qui seraient encore non loin de cette cité. Pendant ce temps, les forces de sécurité, les FARDC, les militaires ougandais et la police sont en alerte pour sécuriser ces centres commerciaux. Ce drame est survenu après plusieurs mois d'accalmie dans cette agglomération où les nombreux déplacés y sont retournés.
Situation similaire dans la ville de Butembo, Nord Kivu, où le Centre international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement CIDOP déplore la prolifération des armes et des guerres dans la région. Une situation qui, selon l'organisation, alimente l'insécurité marquée par des incursions dans les habitations et des assassinats des civils et des membres des forces de l'ordre. Face à cette montée de la criminalité, CIDOP préconise la formation de jeunes patriotes appelés Wazalendo pour les rendre utiles à la nation. Deliko Mbabu, coordonnateur de cette structure, s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
Vous allez vous rendre compte que dans les encablures de la ville de Butembo, tout comme dans la ville de Butembo, il y a une prolifération de groupes armés qui s'appellent actuellement groupe Wazalendo. Ils nourrissent l'intention seulement d'aller ravir les armes auprès des policiers et ils visent des postes stratégiques comme par exemple ce qu'il y a eu avant-hier à la barrière de Kankote et on a tué un policier avec un civil et au niveau de la commune Moussoussa on a tué encore un autre policier, on a ravi l'arme et ainsi de suite. Donc c'est le problème d'avoir laissé les jeunes munis des armes errer en toute culture dans la ville de Butembo. Par le temps qui court, le gouvernement devrait justement prendre des mesures qui sont nécessaires, qui s'imposent, de manière à pouvoir amener tous ces Wazalendo et tous les jeunes au centre de formation pour qu'ils subissent la formation. Parce que ce n'est pas le moment où laisser les jeunes qui ne sont pas formés, qui n'ont jamais subi la formation, continuer à errer en toute culture avec des armes dans une grande ville comme la ville de Boutembo ici.
Restons dans la région à Beni. 27 agriculteurs de Mwalika dans la chefferie de Bachou ont été libérés vendredi par les tribunaux de paix et de Beni. Arrêtés depuis le 8 juillet dernier, ils étaient accusés par l'ICCN d'avoir violé les limites du parc national de Virunga dans la vallée de Mwalika située en zone agricole de Graben. Saïdi Balikwisha Emile, député du territoire qui avait plaidé pour leur libération, appelle le gouvernement à mettre en place une commission d'experts chargée de clarifier les limites du parc de Rutshuru à Lubero jusqu'à Beni afin de faciliter une cohabitation pacifique entre les riverains et les responsables du parc et ainsi éviter les arrestations répétitives dans cette zone. Il est au téléphone de Marc Marofimbo.
Bien que ce n'est pas une satisfaction totale, parce que la solution définitive n'est pas encore trouvée en ces problèmes. Aujourd'hui, ceux-ci peuvent être acquittés, mais on ne sait pas encore demain, ICCN encore peut envoyer ses éco-gardes dans cette même vallée pour aller en arrêter d'autres. Que donc, il va falloir que l'on trouve une solution définitive en ces problèmes. Le tribunal vient de jouer un rôle très important par sa décision de chercher à résoudre la méfiance qui voulait s'installer entre les éco-gardes et la population riveraine du parc national de Virunga. Je réitère encore mon vœu de voir l'ICCN et les populations riveraines de cohabiter. Et cette cohabitation nous amènera à une solution durable à ces problèmes au lieu de s'en attaquer en s'arrêtant jour et nuit.
Nord Kivu encore, au moins 10 personnes ont été tuées par balles dans la ville de Goma pendant la période allant du 3 au 25 juillet 2025. Pendant cette même période, plus de 60 maisons ont été visitées par des bandits armés dans les deux communes de la ville. Ces chiffres sont révélés dans le 4e numéro de Goma Hebdo Plus, une publication des conseils communaux de la jeunesse de Goma. Cette initiative citoyenne a été mise en place par les jeunes de la ville pour documenter et dénoncer les violations des droits de l'homme et autres abus dont sont victimes les populations de Goma et de ses environs en cette période de conflits armés. Le point avec vous, Jean Ganduka Bongo.
Selon ce rapport publié samedi, pendant les trois dernières semaines, 3 personnes ont été tuées par balle dans la commune de Goma et 7 dans celle de Karisimbi. Parallèlement, des cambriolages ont touché 65 maisons, dont 26 à Goma et 39 à Karisimbi. 7 corps sans vie ont également été découverts à travers la ville durant cette même période. Le rapport met aussi en lumière d'autres abus qui rythment le quotidien des habitants de Goma et des zones sous occupation. Il dénonce notamment des arrestations arbitraires des jeunes lors d'opérations de bouclage ainsi que l'imposition des taxes exorbitantes. Ce rapport souligne que la récente paralysie des activités au marché central de Virunga, où les commerçants ont cessé le travail pour protester contre la surtaxation imposée par le M23, n'était pas un simple incident économique. C'est un cri de protestation puissant et un appel urgent à la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Les populations y souffrent non seulement de l'insécurité, mais aussi des taxes qui menacent de contraindre de nombreux commerçants à cesser leurs activités déjà rendues non rentables par la crise actuelle.
La problématique de l'insécurité à Kinshasa s'est invitée à la réunion du Conseil des ministres du vendredi dernier. Cette question a été évoquée par le président de la République dans sa communication. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, la ville de Kinshasa doit refléter l'ordre, la propreté et le sens de la responsabilité. Il faut donc prendre des mesures drastiques qui s'imposent, comme l'indique le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement dans son compte-rendu. Et voici un extrait choisi par Jean Gandou Kabongo.
Responsabiliser chaque niveau de gouvernance locale, du bourgmestre au chef d'avenue, pour faire respecter la discipline de propreté dans chaque entité de la ville. Redynamiser la brigade de salubrité, la doter de moyens humains, matériels et juridiques nécessaires, y compris les mesures de coercition pour faire respecter les normes d'hygiène et ramener tous les citoyens à une culture de propreté. Lancer une réflexion sur la création d'une unité spécialisée avec pour mission prioritaire de débarrasser les avenues de Kinshasa des véhicules abandonnés et épaves qui y sont inutilement stationnés. Un rapport circonstancié assorti des propositions concrètes devra être présenté au Conseil des ministres dans un délai de 7 jours par le ministre délégué près l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville pour évaluation et mise en œuvre progressive.
À Bounia, pendant ce temps, les conditions de détention à la prison centrale se sont nettement améliorées, tout comme la sécurité dans l'enceinte. Les directeurs de la prison attribuent cette évolution à l'appui de la MONUSCO. Les cas d'évasion ont considérablement diminué et les conditions de détention, notamment pour les femmes, se sont humanisées. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
À la prison centrale de Bounia, le calme règne désormais derrière le haut mur érigé, des murs solides construits grâce à l'appui financier de la MONUSCO qui, selon le directeur Camille Zonzi, ont permis de mettre un terme aux évasions répétées.
L'année 2016-2017, vraiment, on a connu des problèmes très sérieux pour l'évasion.
Parmi les réalisations majeures, un quartier spécial pour les femmes, un pavillon pour les malades et des dispositifs de surveillance renforcés.
Il y a les caméras de surveillance qui nous aident aussi par rapport à la sécurité. Il y a les drones de surveillance, ce que nous avons ici, les détecteurs de métaux, et puis le miroir détecteur de métaux que nous utilisons à tout moment. Ça me réconforte le travail.
Les gardiens, autrefois débordés, bénéficient désormais d'un cadre de travail plus structuré. Et ce n'est pas fini. Un quartier pour les mineurs est actuellement en construction.
Justement, avec tous ces appuis que je vais énumérer, vraiment, il y a un impact positif.
Un appui multiforme de la MONUSCO qui permet à la prison centrale de Bounia de tourner une page sombre de son histoire, des progrès salués par l'administration pénitentiaire dans un contexte où la stabilisation passe aussi par des lieux de détention plus sûrs et plus humains. Bounia, Jean-Claude Loki, il est Radio Capi.
Par ailleurs, une délégation de sénateurs en vacances parlementaires se dit satisfait de l'avancement des projets en cours de réalisation dans la province de la Tchopo. Il s'agit des sénateurs Madeleine Nikomba, élu de la Tchopo, et chef de la délégation Jean-Paul Bokechou de l'Équateur, Kati Botema de la Tchopa, ainsi que de Bienvenu Simba, élu de la Tchopa. Ils l'ont déclaré samedi à Kisangani au cours d'un point de presse au terme d'un séjour de 72 heures, soit du 22 au 26 juillet courant, au chef-lieu de la province de la Tchopo, le point avec Jacques Moukonkole.
Fixant l'opinion sur la présence des sénateurs du Grand Équateur dans la Tchopo, la sénatrice Madeleine Nikomba, présidente de la commission infrastructure du Sénat, rappelle à ses hôtes que le mandat des sénateurs est national, ce qui permet à l'élu d'élaborer son rapport à présenter à la rentrée parlementaire. Concernant les projets visités, il s'agit de la coopérative de cacao, le projet d'électricité, les travaux de voirie urbaine, ainsi que ceux de la construction d'un laboratoire biomédical régional. Au terme de ces visites, les sénateurs se disent globalement satisfait. À titre illustratif, la voirie urbaine en pleine modernisation. Jean-Paul Bokechou explique.
Nous avons noté que Kisangani est une ville en chantier, avec plus de 80 km de routes en cours de construction, de réhabilitation et de modernisation. Ce qui est une première dans l'histoire de la ville depuis l'indépendance du pays. Il s'agit de routes modernes, plus larges, avec des largeurs de 7 mètres, 14 mètres, jusqu'à 24 mètres, bien assainies et avec éclairage public.
Pour ce projet de 36 mois, l'impact est déjà visible après 6 mois de travaux. Tous ces projets ont l'avantage d'améliorer les conditions de vie des populations et aussi d'offrir de l'emploi aux jeunes. Ces élus du peuple exhortent la population à s'en approprier, tandis qu'au gouvernement, ils lui demandent d'adopter la même approche des projets prioritaires pour les autres provinces du pays. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Capi.
À Kalemie, le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Tanganyika revient sur la procédure pour le dépôt des candidatures pour les élections des animateurs au niveau local. Francis Ilongangoy l'a fait savoir ce samedi à la presse après la publication le 22 juillet dernier par la CENI du calendrier des élections des conseillers urbains, des maires et maires adjoints ainsi que des bourgmestres et de leurs adjoints. Les propos de Francis Ilongangoy sont sélectionnés par Paulin Munanga.
Le dossier doit être accompagné de 4 photos passeport, la preuve de paiement, quel que soit le scrutin. Là, nous parlons de 500 000 francs pour le candidat conseiller urbain, de 2 500 000 pour les maires et maires adjoints, et de 750 000 pour le candidat bourgmestre et bourgmestre adjoint. Copie de la carte d'électeur, copie du diplôme certifié conforme ou d'une attestation prouvant une expérience dans le domaine économique, le domaine politique, les domaines sociaux et culturels. À l'instar de ça, nous avons besoin d'un CV, modèle CENI, donc l'affiche d'identification du candidat. Les mandataires vont retirer ça dans le BRTC. Nous avons la lettre de consentement pour les candidats qui se trouve sur la liste d'un parti politique et un regroupement politique. Nous avons tous les trois candidats, c'est-à-dire le candidat titulaire et ses deux suppléants. Et nous avons pour le candidat indépendant la lettre de consentement de ses deux suppléants.
Actualité internationale.
ELECAM, la commission électorale du Cameroun, vient de publier la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre. 13 candidatures ont été retenues, parmi lesquelles celle de Paul Biya, le président sortant, qui va briguer un 8e mandat à l'âge de 92 ans. Mais son principal opposant, Maurice Kanto, est lui exclu de la course. Il lui reste un ultime recours devant le Conseil constitutionnel. Pour des raisons de sécurité, les autorités du département de Bakel dans l'est du Sénégal ont instauré un couvre-feu d'un mois interdisant la circulation des deux roues entre minuit et 6 heures du matin. Une décision inédite dans cette zone frontalière avec le Mali, récemment marquée par des attaques djihadistes.
L'invité.
La Ligue de filles et femmes instruites pour le développement LIFID a lancé depuis quelques jours à Kinshasa le projet La Porte. Invitée de Radio Kapi, la coordonnatrice de cette structure, Régine Mombo, explique que ce programme propose des formations dans divers métiers dits masculins, notamment la plomberie, la cordonnerie, l'électricité et la maçonnerie, à l'intention des femmes et jeunes filles. Elle affirme avoir aidé les participantes à devenir financièrement autonome au sein de la société. Régine Mombo s'est entretenue avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Régine Mombo.
Bonjour Monsieur Blaise.
La Ligue des filles et femmes instruites pour le développement, LIFID en sigle, vient de lancer le projet Apporte. Que retenir de cette initiative?
Nous avons initié ce projet vu les problèmes qu'on a eu à avoir dans la société, comme les inégalités sociales, et donc faire la promotion du genre. Alors, nous avons pensé initier le projet Apporte, qui signifie ouvrir les portes d'opportunités et les carrières pour les filles et les femmes dans les secteurs à prédominance masculine. Alors, LIFID a trouvé qu'il y a d'autres professions qui sont traditionnellement connues comme professions masculines. On te dit non, la construction est réservée seulement aux hommes. Alors que la construction produit beaucoup d'argent. Même les formations professionnelles, là, vous trouvez les femmes seulement dans les histoires de beauté esthétique, la fabrication des beignets, la fabrication de gaufres, les bactéroles.
Vous parlez de l'autonomisation. Qu'est-ce que vous faites exactement en faveur des femmes et filles à travers ces projets?
Nous organisons les formations professionnelles pour les femmes, les filles mères, donc celles qui sont à la maison, qui chôment ou qui sont dans d'autres professions comme esthétique, qui préfèrent changer. Parce que nous avons trouvé que les professions comme logistique, la plomberie, ça paye chaque jour. Oui, vous voyez qu'il y a toujours les besoins, les hommes qui sont la gagne. Dans ces professions-là, nous ne trouvons pas les femmes. Les femmes mécaniciennes, par exemple, tu vois, par exemple, ici à Kinshasa, il y a beaucoup d'engins, et c'est LIFID qui va les former ensemble avec les entreprises.
Ces formations seront payantes ou vous allez les faire de manière gratuite?
Notre vision, c'est pas que les formations soient payantes, c'est que les femmes soient formées et soutenues avec un fonds pour démarrer leur sac. Nous voulons que d'autres partenaires nous soutiennent pourvu que ces formations soient gratuites. Et notre vision, c'est quand les femmes là finissent leur formation, qu'elles soient engagées dans les entreprises qui ont formé, soit qu'elles puissent elles-mêmes initier leur propre entreprise.
À travers les projets Apporte, vous visez combien de femmes ou combien de filles?
Nous avons commencé déjà les sensibilisations à travers quelques provinces, pas seulement à Kinshasa. Nous voulons commencer par 1000 personnes. nous allons y aller progressivement parce que il y a des formations qui prennent 4 mois, des formations qui prennent 6 mois, le temps de faire les suivis, le temps de pratique. Alors nous nous sommes dit avec 1000 pendant 3 ans.
Quels sont les critères de choix des bénéficiaires de cette formation?
Nous allons voir l'âge. Par exemple, nous ne pouvons pas former une femme déjà à 90 ans. Nous voulons former une personne qui va encore produire et travailler après. Notre souci, c'est après, elle peut aussi former d'autres personnes. Si elle a son entreprise, elle peut engager d'autres femmes là qui seront aussi formées après. Et on va suivre. Déjà, les lundis ici, nous serons devant les élèves qui vont dans des centres des examens d'État. Nous allons sensibiliser les élèves là. Nous allons leur apprendre que après leur diplôme d'État, pour qu'elles comprennent que il y a quelque chose à toucher dans les facultés ou départements à l'université qu'elles sont en train de laisser seulement aux hommes là.
Dans les cadres de ces projets, avez-vous un message à lancer aux femmes congolaises en général et puis quinoises en particulier qui vous suivent sur Radio Kapi?
Les femmes congolaises, levons-nous, ne cherchons pas de facilités, travaillons. Nous avons la force. Qu'est-ce que les hommes font que les femmes ne peuvent pas faire? Le travail assure l'indépendance.
Merci beaucoup, Madame Régine Mbombo, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Blaise Ndongala Mayanda.
Notre invitée Régine Mbombo s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda et c'est par ici que nous mettons un point final à notre grande édition du journal de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Jean Gando Kabongo et mise en onde par Jean-Claude Salamwanama Kengonswalu. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.